Philippe Délay, bonjour.
Bonjour Gaël et bonjour tous nos auditeurs.
Et bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série sur la thématique de la Bible et de l'espérance qu'elle nous donne au travers de ses pages. Nous étudions la thématique de la prophétie et plus particulièrement depuis quelques semaines, nous découvrons la prophétie des chapitres 7 et 8 du livre de Daniel. Nous nous étions arrêtés à la découverte de cette petite corne et de qui se cachait derrière. Dans notre précédente émission, nous avons précisé de quelle manière le politique et le religieux se sont mêlés pour former cette petite corne et nous avions commencé donc l'identification de cette corne de ces chapitres 7 et 8 du livre de Daniel. Alors Philippe, aujourd'hui nous allons continuer à découvrir et à consolider cette piste.
Oui, nous allons consolider et je vous invite à écouter ce que nous dit le livre d'histoire générale des civilisations par Édouard Perroy. Je vous cite. Le pape occupait une position très favorable dans l'Italie ruinée et délaissée par l'Empire exténué. À Rome même, il était devenu par la défaillance des institutions civiles le véritable chef de la ville. Il fut naturellement amené à prendre la direction de la résistance à l'invasion lombarde et à organiser le recrutement des milices locales, incarnant ainsi le patriotisme latin. Son autorité s'identifia peu à peu avec ce qui subsistait encore de la Respublica romaine. Les pèlerins barbares voyaient en lui le représentant de Rome et de l'idée impériale. Je vous rappelle que les cornes représentent un pouvoir politique, mais la petite corne était différente des autres, nous dit la Bible.
Alors en quoi ce pouvoir politique était différent de ses prédécesseurs ?
Eh bien nous l'avons déjà vu, politiquement il n'est pas si différent que cela, mais le nouveau caractère de ce pouvoir est la combinaison du politique et du religieux. Nous allons développer pour que nous puissions bien saisir cette différence. Je vous cite dans le livre de Daniel, le verset 8 du chapitre 7. Je lis, « Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. » Les tribus barbares qui avaient envahi l'Empire romain et particulièrement l'Italie étaient des adeptes de l'arianisme. Cette religion était une hérésie pour les chrétiens de Rome. Et lisons ce que nous dit Uriah Smith. Je vous cite. Nous affirmons en toute confiance que les trois puissances ou cornes renversées sont des Hérules, les Vandales, les Ostrogoths. Et cette croyance se base sur des faits historiques sérieux. Odoacre, le chef des Hérules, fut le premier des barbares qui régna sur les Romains. Il accéda au trône d'Italie en 476. Au sujet de ses croyances religieuses, Gibbon dit, comme le reste des barbares, il avait été instruit dans l'hérésie de l'arianisme. Nous croyons, en nous basant sur les témoignages cités plus haut par les différents historiens, que les trois cornes expulsées étaient la puissance des Hérules en 493, celle des Vandales en 534 et finalement celle des Ostrogoths en 553, bien que l'opposition effective de ces derniers au décret de Justinien cessa lorsqu'ils furent expulsés de Rome par Bélisaire en 538. De cette manière, la prophétie s'est réalisée, les trois cornes ont été arrachées et la petite corne a entièrement occupé la place.
Et donc, depuis son accession au trône en 476 jusqu'à ses pleins pouvoirs en 538, l'évêque de Rome est devenu le pape, le chef de Rome et le pouvoir papal ?
Eh bien oui, en l'espace de 62 ans, il obtient le titre de Pontifex Maximus. Ainsi, la deuxième partie de la prophétie commence à se réaliser. Rappelez-vous, la deuxième partie du verset 8 du chapitre 7. Elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Mais lisons quelques autres versets pour situer cette petite corne. Au chapitre 7, toujours au verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Au verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Au chapitre 8, au verset 10, il est dit « Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. » Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Cette petite corne est un royaume ou un pouvoir politique, mais elle n'est pas de même nature que les autres. La Bible nous dit qu'elle est différente des autres. c'est le seul royaume qui, depuis 476 après Jésus-Christ, est différent en comparaison des 10 autres nations qui représentent les 10 cornes ou les 10 orteils de la statue. Car c'est aussi un royaume religieux. C'est ici la différence avec les prédécesseurs. Le verset 21 nous dit qu'il fait la guerre aux saints. Et il l'emporte sur eux.
Alors, nous avons consacré plusieurs de nos émissions sur l'état des morts. Je pense donc que nous ne parlons pas là des saints qui sont morts. Mais du coup, de qui parle-t-on ?
Eh bien, je vous rappelle que la Bible s'explique par elle-même. Alors, allons chercher la signification du mot « saint » dans le livre de l'Exode, au chapitre 31, verset 13. « Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. » Et dans le livre des Lévitiques, au chapitre 19, verset 2, il est dit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Et puis, je vous invite à écouter également un autre texte, celui de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 2. « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. » Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc les saints, ce sont des hommes et des femmes vivants qui obéissent à la parole de Dieu.
On peut se poser une question, y a-t-il eu une guerre menée par la papauté contre les saints ?
La réponse, c'est le sang de millions de martyrs qui crient « Mais oui !» Au début du christianisme, à l'époque romaine, c'était les païens qui persécutaient les chrétiens. À partir du XIIe siècle, ce furent des persécutions contre les Vaudois, les Albigeois ou les protestants en général qui témoignaient contre le pouvoir papal. En 1208, le pape Innocent III proclama une croisade contre ces peuples cités, durant lequel près d'un million d'hommes périrent. Depuis la fondation de la Compagnie de Jésus en 1540, qui sont les Jésuites, près de 900 000 personnes sont mortes de toutes les façons imaginables. L'Inquisition fit périr 150 000 personnes en 30 ans. 50 000 personnes dans les Pays-Bas qui furent soit pendues, décapitées, brûlées, enterrées vivantes pour des délits d'hérésie, etc. Nous trouvons suffisamment de témoignages de cette triste époque. Et nous ne savons pas avec certitude le nombre de victimes que l'Église catholique romaine a causées durant plus de 1000 ans de règne. Certainement plusieurs millions de morts. Lisons ce qu'a écrit Ernest Renan, né le 28 février 1823, écrivain, philologue, philosophe et historien français reconnu. Je vous cite. « L'Inquisition est la conséquence logique de tout système orthodoxe. L'Église, quand elle le pourra, devra ramener l'Inquisition. Et si elle ne le fait pas, c'est qu'elle ne le peut pas. Car enfin, pourquoi cette répression serait-elle aujourd'hui moins nécessaire qu'autrefois ? Est-ce que notre position est moins dangereuse ? Non, certes. C'est donc que l'Église est plus faible. On nous souffre parce qu'on ne peut pas nous étouffer. Si l'Église redevenait ce qu'elle a été au Moyen-Âge, c'est-à-dire souveraine absolue, elle devrait reprendre ses maximes du Moyen-Âge, puisqu'elle avoue que ses maximes étaient bonnes et bienfaisantes. Le pouvoir a toujours été la mesure de la tolérance de l'Église. En vérité, ceci n'est point un reproche, cela devrait être.
Alors avec cette citation et tous ces éléments, nous commençons à identifier cette petite corne. Un pouvoir politique associé à un pouvoir religieux, assuré par des évêques, dont l'évêque de Rome, Pontifex Maximus, qui est devenu le pape.
Oui, le pape de l'Église médiévale, et cela le fut pendant plusieurs siècles. En fait, le paganisme qui existait lors de l'Empire romain païen s'est simplement déguisé en christianisme. Sous l'apparence du christianisme, l'Église catholique médiévale s'est élevée dans le paganisme. Les statues et les fausses doctrines qui sont entrées dans le christianisme de l'époque, nous aurons l'occasion de développer et de voir si aujourd'hui les choses ont changé, comme le dit Joseph et Ernest Renan.
Donc nous allons découvrir tous ces détails de cette petite corne et ses actions lors de nos prochains échanges. Alors, avant de refermer cette émission, est-ce que vous auriez une conclusion qui nous ramène dans le thème de l'espérance ?
Oui, on pourrait dire ceci. Nous constatons ici la réalisation de la prophétie du prophète Daniel. Et cela confirme que Dieu reste aux commandes et que la réalisation de la fin de cette prophétie, à savoir le rétablissement de toutes choses, est aussi certaine que les événements déjà accomplis.
Alors à très bientôt, Philippe.
Merci Gaël, à bientôt.